Donc nous sommes dans Colossiens. Et on est dans le chapitre 2, mais je veux commencer pour aujourd'hui dans le chapitre 1 avec le verset 27. Juste la fin du verset 27. Colossiens chapitre 1. Le verset 27 où nous lisons, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, on commence avec cette pensée-là. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et dans le grec, c'est homme parfait en Christ. On est parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. Verset 29, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et on a vu que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. On a vu ça la semaine dernière. Chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc c'est le même combat du dernier verset. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions de l'homme, des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc j'aurais voulu même aborder cette dernière pensée, toute autorité, toute domination de Christ est chef de toute domination et toute autorité. J'aurais voulu faire ça aujourd'hui aussi. Mais déjà, on a beaucoup de voir dans tout ce qui est là. Et puis, ce sujet va être relevé encore la semaine prochaine dans le texte qu'on va voir. Donc, tout ce qui a un rapport avec chef qui domine sur toutes les dominations et toutes les autorités et toutes les puissances, et bien là, on va le voir la semaine prochaine. Donc, il faut revenir. OK? Donc, pour aujourd'hui, donc on commence là. Paul a introduit ce combat. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, la force de Dieu qui agit puissamment en moi, dans le verset, chapitre 1, verset 29. Et donc, au verset 2, chapitre 2, verset 1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand ce combat. Quel grand combat, quel grand effort que Paul exerce dans ce domaine. Paul s'est investi à 100% pour faire quoi? Pour faire connaître la vérité de Dieu qui était exprimée en Jésus-Christ. Donc je rabâche un peu cette idée de combat, mais Paul lutte, donc c'est le combat, il lutte dans une rivalité, et c'est la même idée de combat, de rivalité, contre les ténèbres spirituelles qui enchaînent l'humanité. Nous savons que nous sommes tous sous l'empire du diable. On est tous dans le même royaume des ténèbres jusqu'à ce qu'on se convertisse à Jésus-Christ. Donc cette rivalité, c'est la vérité révélée en Jésus-Christ et par la parole de Dieu d'un côté et de l'autre côté, tous les mensonges qui sont racontés. Depuis la Genèse jusqu'à la fin du monde, il y a deux chemins. Il y a le bon chemin et le mauvais chemin. C'est vrai que le mauvais chemin peut avoir 10 000 pistes, mais c'est toujours le même. Jésus a dit, il y a le petit chemin et le grand chemin. Celui-là mène à la perdition et le chemin de Jésus à la vie. Donc, on est soit sur l'un ou sur l'autre. Mais le problème, c'est que, pour lequel Paul combat, c'est qu'il y en a qui vont accepter Jésus comme leur sauveur, mais ils vont marcher dans le chemin qui mène à la perdition. Ils ne vont pas être perdus, attention. Mais pourquoi marcher dans le chemin de la perdition si on est sur le chemin de la vie? C'est illogique. Et pourtant, c'est trop souvent le cas. Jésus nous offre le paradis, une grâce envers nous, les coupables. Toutes les autres routes mènent à la destruction et la honte éternelle. Quelqu'un dirait, « Eh là, Billy, ça c'est très exclusif, ton idée là. » Eh ben oui, c'est très exclusif. C'est pour ça que les chrétiens autrefois étaient persécutés et mis à mort, parce qu'ils étaient exclusifs. Jésus seul. C'était le message chrétien depuis le début. C'est toujours le message biblique. Okay? Jésus seul. Toutes les autres routes aboutissent à la mort. C'est que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'écoutais une conversation hier. Et donc, une personne qui disait que voilà, nous avons la vérité, mais les autres, donc, qui ont Jésus plus plein d'autres choses, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que quand on a Jésus plus quelque chose d'autre, c'est plus Jésus. Hein? Bon, c'est un monstre, mais c'est pas Jésus. Au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Eh bien, ça vous dit, ça c'est vous. Hein? Si vous êtes comme moi, vous n'avez jamais vu le visage de Paul. Donc, il parle de tous les chrétiens à travers les siècles qui vont en fait lire ce qu'il a écrit ici. Et c'est comme aussi Jésus, quand il priait la dernière soirée là, avant la crucifixion, il dit, je ne prie pas uniquement pour les disciples qui étaient là avec lui, mais pour ceux qui allaient croire par le témoignage. Et ça, c'est nous aussi, n'est-ce pas? Donc, Dieu agissait en Paul et à travers Paul pour que les chrétiens, comme nous, qui n'ont jamais rencontré Paul, que nous puissions être édifiés sur la vérité. Le résultat de ce travail de Dieu en et à travers Paul est donc le texte inspiré, les Écritures. Donc, moi, je parle de Paul, mais c'est la même chose pour Jean et pour Moïse, etc. C'est le dépôt de la foi dont on a lu en Jude qu'il fallait combattre pour garder le bon dépôt, n'est-ce pas? Ce n'est pas un combat physique, attention, mais spirituel. Paul dit dans le verset 2 qu'il y a ce grand combat afin que eux, donc les Colossiens, les Laodicéens et les autres chrétiens qui n'ont jamais pu rencontrer Paul ni Jésus, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà, on a tout dit. On peut fermer le livre, on peut partir parce que voilà, Jésus est tout. OK? Paul explique l'objectif de son combat, de son travail, de pourquoi il se dépense. Hein, c'est tous les mots pour parler de ce combat. Il veut que les cœurs des croyants soient réconfortés, que le cœur soit rempli de la consolation. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. OK? Après, il parle d'être unis dans l'amour. Et je voudrais lire, donc moi j'ai déjà mis ça ici, je pense. Oh non, j'ai pas mis ça ici. Attends, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc dans Jean, vous pouvez tourner si vous voulez, dans Jean chapitre 17, versets 20 à 26, où nous lisons à propos de cette union d'amour en Jésus-Christ. D'accord? Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc c'est Jésus qui parle, la dernière soirée là, avant de la crucifixion, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, verset 21, afin que tous soient, beaucoup de monde, non, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dans cette gloire-là, il parle du Saint-Esprit. Moi en eux, Jésus est en eux, en nous. Nous sommes le « eux » là. Il est en nous. Comment? Par le Saint-Esprit. Et toi en moi, donc le Père dans le Fils, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, Dieu le Père aimait le Fils et Dieu le Père nous aime. Père, dit Jésus, je veux que là où je suis, que tu m'as... Excuse-moi. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Donc, il parle de l'avenir, donc aller au ciel, au paradis. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc là, une note éternelle, avant la fondation du monde. On va revenir sur cette idée tout à l'heure. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi... Je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Okay? Donc, c'est une œuvre de la Trinité. C'est sûr que c'est le Fils qui a pris l'humanité à céder sa vie sur la croix pour effacer tous nos péchés, pour qu'on puisse être sauvés, on puisse être nés de nouveau et on puisse avoir la vie de Dieu en nous. Et cette vie de Dieu va nous amener jusqu'à dans l'éternité. Et donc, l'amour de Dieu à travers l'Évangile est répandu dans nos cœurs. Par qui? Le Saint-Esprit. OK? Donc, c'est ça dont il parle ici dans le verset 2. Quand il a dit... afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, donc du consolateur, et qu'ils soient unis dans l'amour, donc l'amour de Dieu soit répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, aussi, non pas seulement qu'il veut qu'on soit sauvé, qu'on a connaissance de le Saint-Esprit en nous, qu'on ait connaissance de bénéfices, les bienfaits de l'Évangile, mais qu'on a cette richesse de connaître tous les mystères de Dieu qui sont globalement, donc compris dans la personne de Jésus-Christ. Il veut qu'on connaisse en tant que chrétien, on n'a pas simplement la connaissance du salut, mais qu'on connaisse Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même le vrai trésor. Et en qui sont, il dit, tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'était le verset 3. Donc, c'est Christ qui est le mystère de Dieu. C'est Christ qui est l'objectif éternel. En Christ se trouvent tous. T-O-U-S, je pense. Les trésors, la sagesse, la connaissance. Quand vous avez tout, vous avez besoin de quoi? Rien de plus. Et il vous manque quoi? Quand vous avez tout. Parce que Dieu est tout. Ben, nous sommes là, mais on est là parce qu'il nous soutient. On a déjà vu ça dans le chapitre 1. On est soutenu, notre existence, par la volonté de Jésus. Mais dans l'éternité, c'est Dieu qui est important. Alors, j'essaie d'imaginer, je n'ai pas une bonne illustration, mais je me suis dit, si vous entrez dans une grotte et c'est plein d'or et de tous les bijoux, les minéraux et tout ça, vous voyez tout ça, en parlant de la beauté de ce... Alors, évidemment, il doit avoir une petite lumière pour voir tout ça. Mais quand vous avez tout, ben, qu'est-ce que vous allez chercher de plus? Ah ben non, je vais tourner de cette grotte-là et puis je vais trouver une autre qui a quelques, un peu de soufre, un peu de, je ne sais pas quoi, de borax. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Et donc ça m'a, parce que j'ai préparé le message et j'ai entendu cette conversation et j'ai dit... Quelle tristesse d'avoir tout et puis de se détourner de la totalité pour avoir, je ne sais pas, un apocryphe ou quelque chose qui enfin ne vaut rien. Mais en plus, on perd la totalité quand on se détourne pour autre chose. Jésus est tout. Donc, je voudrais tourner dans Éphésiens chapitre 1. Et je vais lire... les versets 3 et 6, 3, 4, 5 et 6, et je vais donner un résumé de ces versets parce que c'est un texte qui est souvent malmené. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions spirituelles. Non, c'est pas quelques, c'est toutes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans cette traduction, il dit toutes sortes, c'est toutes les bénédictions. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Donc ça devient un peu complexe des fois, surtout quand Paul commence une phrase et puis finit la prochaine page. Mais je vais vous donner un résumé à comment je comprends ce texte. On a déjà, il invoque avant le monde, comme on a vu tout à l'heure, avant la fondation du monde. Dieu a aimé le Christ et a mis en place le salut. Le salut était planifié en Christ, seul et complet, avant le monde. Toute personne en Christ jouira d'une éternité, du paradis dans la présence de Dieu, saint, irréprochable, et adopté dans la famille de Dieu. Donc, ces idées étaient déjà dans chapitre 1, Colossiens chapitre 1. Je parlais de sainte et sans reproche. Ceci est le plan de Dieu selon sa propre volonté. C'est ce que Dieu veut faire. Et il peut le faire parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il peut le faire, n'est-ce pas? Tout ceci sert à la gloire. Tout ceci sert à la louange de la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour qu'on puisse dire, « Ah, mais je suis un bon croyant et voilà, Dieu doit me céder un peu de place là-haut. » Non, c'est à tout ça la gloire de Dieu. Et il dit, dans de continuation de cette phrase, tout ceci sert à la louange de la gloire de Dieu par la grâce en Jésus-Christ. Grâce étant donc la bonté de Dieu, l'amour de Dieu exprimé envers nous, les coupables qui n'ont aucun droit d'aller au ciel. Mais Jésus a tout payé pour nous offrir par la grâce. Donc il dit par la grâce en Jésus-Christ qui est lui-même le bien-aimé. La grâce de Dieu envers les pécheurs. OK? Donc, le point principal à comprendre, c'est que Dieu nous a bénis de, dans ma traduction là, toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils sont en Jésus-Christ et ils sont déjà là. C'est déjà fait. Nous devons approprier les bénédictions. Mais ils sont déjà là et déjà à notre disponibilité. Donc, nous allons revenir sur ceci dans une petite seconde. Donc, à retenir Christ et le mystère de Dieu en lui, on a l'objectif éternel, on a tout ce qu'il faut, on a tous les trésors, toute la sagesse, toutes les bénédictions, tout en Jésus. Et on va revenir, mais il faut voir versets 4 et 8, on a une mise en garde. Verset 4, Colossiens 2, 4. Donc, il a insisté que Jésus est tout. Pourquoi? Il dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, il y a toujours un problème à ce thème-là. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Il dit attention aux tromperies et séductions. Et donc il invoque l'idée des beaux discours. Et nous devons rajouter des beaux programmes sur Internet et tout, parce qu'il y a tellement de médias aujourd'hui dans les journaux et les télévisions et les Internet et tout ça. Eh bien, cet avertissement est donné non pas seulement par Paul, mais aussi par Jésus, et par Jean, et par Pierre, et par Jude, et peut-être encore d'autres. Il faut faire attention à ce que vous apprenez, ce que vous écoutez. Alors, si c'était quelque part dans un verset obscur, dans le, je ne sais pas, dans les psaumes ou dans les proverbes, on dit, oh, bon, d'accord. Mais c'est répété, répété, répété à travers le Nouveau Testament. Pourquoi? Ben, parce que dans notre nature humaine, on a cette tendance d'aller suivre n'importe quelle chose, même quand on est enfant de Dieu, né de nouveau. Okay? Donc, il dit qu'il y a des pièges, donc on peut tomber dans un piège. Parce qu'on cherche à tomber dans un piège? Non, parce qu'on ne fait pas attention. Le piège est déjà là. On ferme les yeux, on est comme moi un peu ailleurs, on tombe dedans. OK? Et ce n'est pas ça qu'il veut. OK? Il parle des philosophies, donc les séductions intellectuelles, les tromperies intellectuelles. Il parle des traditions, donc un peu la culture. Ce n'est pas pour dire que les traditions et la culture sont d'office mauvaises, mais quand ça détourne de Dieu, c'est devenu mauvais. OK? Quelque part, ces séducteurs, ils ont un message, il vous faut plus, ou Jésus n'est pas tout ce qu'il faut. Il vous manque quelque chose. Et les gens remplissent ça avec plein de choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus plus autre chose n'est plus Jésus seul. Il utilise au verset 8 une phrase, les principes élémentaires et puis du monde. Okay? Les principes élémentaires, oui, mon illustration. J'ai pensé faire ça, mais j'ai simplement emmené la boîte. Plein de dominos, voilà. Vous connaissez comment ça marche, vous mettez le premier, et puis le second, et vous faites toute une ligne de dominos, et puis vous prenez le premier, vous le faites tomber, et puis... Et ils peuvent tomber, si vous l'avez bien fait, 1000, 2000, je ne sais pas quel est le record du monde pour les dominos. OK? Mais le premier principe, c'est le premier domino. Si vous ne le faites pas tomber, le millième domino ne tombe pas non plus. OK? Et c'est de ça qu'il parle. Il parle des choses qui viennent dans les listes, comme le A, B, C jusqu'au Z. C'est une liste. Et vous avez plein de choses. Et quand vous prenez quelconque philosophie, quelconque idée, quelconque principe ou pratique ou autre chose, vous êtes sur la petite voie de Jésus et puis vous prenez la première déviation et vous ne revenez pas sur la bonne voie. Après la première déviation, donc c'est le second pas et le troisième pas jusqu'au mi-pas et vous aboutissez ailleurs. Et c'est ça dont il parle. Il ne parle pas de où vous allez aboutir. Il parle du premier pas. Il ne veut pas qu'on prenne le premier pas de déviation. C'est ça qu'il parle ici. OK? La nouvelle direction, quoi que ce soit. Donc, ajouter des songes, des visions, des révélations, des pratiques religieuses, des abstinences. Il y a plein de monde qui dit « Ah ben, je vais m'abstenir de ceci, cela, comme ça je serai un meilleur chrétien. » Ou je vais ajouter des prières à Marie et Joseph, etc., etc., je serai plus heureux. OK? Ajouter des idées religieuses qui semblent vraies, hein? Mais non, pas vraies, parce que déviation et au bout du chemin, on est loin de la vérité. Ils sont tous des pièges. Donc, on revient au verset 5. Donc là, je vous ai mis en garde de ne pas prendre le premier pas, d'aller sur la lune ou quelque chose. Verset 5. Car, donc c'est Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Donc en parlant de notre unité en Christ dans les lieux célestes, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc le fait c'est que à travers le Saint-Esprit, Paul était uni avec les chrétiens de Colosse et il voyait bien qu'ils étaient bien solidement fondés dans la foi et la pratique de la foi et c'était en bon ordre. Tout allait bien. Donc c'est possible que dans une église, tout va bien. C'est possible pour nous aussi que tout aille bien. OK? C'est possible. Donc, on va essayer de faire comme ça, n'est-ce pas? Verset 6. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Là, c'est le verset 6. Donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier principe dans la vérité. Donc, le principe peut être dans tout le domaine. Il y a le domaine dans le mal, il y a le domaine du bien. On a pris le premier pas, c'était de croire en Jésus-Christ. Maintenant, je suis sur la route. Comme vous avez reçu Christ, maintenant, marchez en lui. Il ne faut pas aller suivre les autres choses. Il y a 10 000 choses qui sont proposées. Verset 7. Étant, donc, marchez en Christ, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, donc on parle d'Épaphras, et abondé en action de grâce. Donc, soyez reconnaissants. Donc, il dit globalement que voilà, vous avez la parole de Dieu, étudiez, restez là-dedans, tout ce que vous avez besoin de savoir vis-à-vis de Dieu et la pratique du christianisme est là dans la parole de Dieu. Soyez fondés, soyez enracinés, fleurissez dans la foi. On va sauter au verset 9. Car en lui, il revient sur ce qu'il a dit tout à l'heure, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc on a déjà parlé de ça la semaine dernière, dans le chapitre 1. OK? Christ est Dieu. On ne peut pas être plus Dieu que Dieu. Il est tout. Il est l'absolu. Il est tout ce qu'on veut, tout le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus, le plus, le plus. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. J'aimerais mieux avoir Jésus que toute autre chose. Au verset 10, vous avez tout, pleinement, en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, la fin de ce verset, on va reprendre la prochaine fois. Mais vous avez tout. Ça veut dire, dans le grec, c'est dans cette forme-là, vous avez été pleinement comblé en Christ. Au moment que vous avez cru en Jésus, Dieu a donné à votre disponibilité, disposition, je ne sais pas quoi, toutes les richesses dans les lieux célestes. Tout est là. Vous ne pouvez pas avoir plus que Dieu mis à votre disposition. Il faut l'approprier, d'accord. Il faut marcher là-dedans, d'accord. Mais c'est là. Vous ne pouvez pas avoir plus parce que vous avez déjà tout. Et c'est pour ça qu'il dit en Jésus, c'est toute la divinité. Et il est le chef de tout. Et en lui, puisque en croyant en Jésus, on est en lui, ben, on est dans celui qui est le chef de tout. Et c'est pour cela, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais la semaine prochaine, on le verra. Quand ça vient dans ce domaine des esprits et de tout ça, nous avons l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour être libérés de tout ça. On a déjà parlé de ça brièvement la semaine dernière. On a brièvement parlé là. On parlera la semaine prochaine. Je voudrais terminer en regardant dans Jean, chapitre 14, verset 20, où nous lisons, donc je vais raccourcir la phrase un petit peu, « Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. » Donc ça veut dire, donc c'est Jean chapitre, 20, chapitre 14, verset 20, que Dieu, la Trinité, est en nous par le Saint-Esprit, mais en nous, on a l'Esprit de Christ qui est aussi le Père en lui, okay? Parce que Dieu ne se divise pas comme ça. C'est la divinité qui est dans le croyant par la présence du Saint-Esprit. Et chapitre 15 et versets 4 et 5, je vais raccourcir un tout petit peu aussi. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Puisque nous avons tout, puisque en Jésus-Christ nous avons tout, et bien donc Jésus dit, Jean chapitre 14, versets 4 et 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc je saute, celui qui demeure en moi, c'est au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc pour dire, si vous prenez une de ces déviations, de ces principes élémentaires du monde, et vous allez par là, l'ascétisme de s'abstenir de vivre dans une grotte ou sur un arbre ou quelque chose, vous ne pouvez plus avoir tout ce que Dieu a pour vous en Jésus-Christ parce que vous avez vous coupé de bon chemin. Je ne parle pas de salut, je parle de votre vie de tous les jours. Okay? Je ne sais pas si ces gens-là étaient sauvés ou pas, mais quand ils vivaient en haut d'une petite falaise là, ou dans un arbre, ou dans le fond d'une grotte, c'était jamais l'idée de Dieu de pratiquer un genre de christianisme abîmé comme ça. Il veut qu'on soit là, on vit notre vie de tous les jours à la gloire de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Et Paul a peiné, travaillé pour nous donner à travers Dieu qui faisait ce qu'il faisait Dieu pour que ça soit écrit, donc les Écritures. Eh bien, on a tout maintenant. Il faut simplement être au courant de ce que Dieu nous a dit pour qu'on puisse avoir une vie abondante. Amen. Amen.